Coconut Podcast. Saison 5. Présenté par le groupe Quartier. Avec votre animateur, Alain Jo. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, eh bien, Coconut Podcast se réinvente et on vous présente cette version Coconut Podcast Junior. Nous sommes avec des invités, je vous dis, le futur du Québec, la crème de la crème. Nous sommes en plein leur institution scolaire. Franchement, on va remercier l'entièreté de l'équipe de direction qui nous a permis que ce projet puisse se réaliser. Mais également, nous nous devons de féliciter une grande enseignante de cette institution, je dis bien Madame Mélanie Dubois, qui elle-même a déjà eu cette chance de participer dans les tout débuts de Coconut Podcast. Alors, elle est une pionnière avec Coconut Podcast, messieurs, dames. Alors, sans ne plus tarder, on va faire un petit tour de table, vous présenter nos grandes invitées, ces actrices de changement, le futur, comme je vous dis, de notre nation. Alors, dans un premier temps, je vous présente Iran, qui est en secondaire 4. Iran, quelques mots pour nous, peut-être?
Ben, bonjour et bienvenue dans Coconut Podcast. Merci. On est très contents de vous avoir aujourd'hui.
On présente notre prochaine invitée, Sarah!
Bonjour, je m'appelle Sarah et comme Iran a dit, bienvenue. Et en vrai, moi, je suis un peu stressée, mais je suis sûre que ça va bien passer.
En tout cas, dans ta voix, ça se voit pas. Par la suite, on a gentedame Marlène.
Bonjour, je m'appelle Marlène. Je suis très contente d'être ici et j'espère qu'on va avoir une bonne discussion.
Super, vous avez toute une voix radiophonique. Radio Cannes sont en train de nous écouter, là, Marlène. Superbe. Par la suite, nous avons gentedame Chloé. Superbe, le mois de l'histoire des Noirs avec des étudiantes comme vous, ça va être magnifique. Et pour terminer, l'avant-dernière, on a gentedame Jenny.
Bonjour, je m'appelle Jenny et j'ai hâte de discuter avec vous aujourd'hui.
Superbe. On va terminer avec la dernière, mais non la moindre. Messieurs, dames, elle est à Coconut Podcast avec nous, Palvacha.
Bonjour, moi c'est Palvacha et puis je suis ravie d'être ici.
Superbe. Et puis, messieurs, dames, ce projet n'aurait été guère possible sans l'apport, l'investissement pour ces étudiantes. Madame Mélanie Dubois, auriez-vous quelques mots pour nous?
Bonjour, je suis vraiment contente d'être ici et je suis vraiment contente de ce projet-là avec mes élèves. Puis je suis vraiment contente de célébrer le mois d'histoire des Noirs en février au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie.
Superbe, incroyable. Merci de nous recevoir. Alors, on va débuter sans ne plus tarder. Il n'y a pas de tour de parole, il n'y a pas de droit de parole. Si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, laissez-vous aller, mesdames. Alors, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Que signifie le mois de l'histoire des Noirs pour vous, étudiantes, élèves du pensionnat du Saint-Nom-de-Marie? On vous écoute. On voit que Sarah a un petit truc à dire.
je suis en train de penser, Chocot.
OK, d'accord.
Moi, je pense que c'est comme un mois que... On en entend parler beaucoup, mais je trouve que pas assez aussi, parce que quand j'ai parlé avec mon petit frère, lui, il savait même pas qu'il y avait l'histoire des Noirs ce mois-ci, puis il savait même pas c'était quoi. Et... Donc, je lui ai expliqué que c'était un mois pour commémorer et célébrer d'une certaine façon nos ancêtres, notre passé, et de pas laisser ça tomber dans l'histoire. Donc, je trouve ça très important, comme moi.
Célébrer les ancêtres. Intéressant. Écoutez, je vois Mme Chloé qui nous regarde, là. J'aimerais vous entendre. Chloé, je vous vois, là, mais j'aimerais t'entendre très rapidement. Je sais que tu es très impliquée dans ton école. Pour toi, le mois de l'histoire des Noirs, en 15 secondes, ça représente quoi?
Je pense que je suis d'accord avec ce que Marlène a dit. Que c'est pour les ancêtres et l'histoire de comment les Noirs sont arrivés ici. Mais
quand je pense à l'histoire des, au mois d'histoire des Noirs, je pense surtout à ce que j'ai appris à l'école primaire, l'histoire d'il y a très très longtemps, et comment peut-être on a moins d'informations de les effets que ça a maintenant et où ils sont rendus la communauté noire en ce moment.
Ok, excellent, excellent. Jenny qui te regarde répondre. Jenny, toi-même qui est d'origine camerounaise. Écoute, tu es assurément bilingue. Hein? On sait qu'il y a deux communautés francophones et anglophones au Cameroun. Que signifie pour toi, quand tu es arrivé ici en Amérique, très jeune quand même, mais le fait de voir qu'on célèbre la culture noire, ça te dit quoi, toi? On t'écoute.
Mais je trouve que c'est un moment pour voir son héritage, voir d'où on vient, comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, comment ça a affecté l'histoire en ce moment. Puis c'est un moment de vraiment réfléchir sur nos ancêtres, puis ce qu'ils ont vécu et leur histoire, en fait.
Superbe, superbe. Paul Vacha, on aimerait t'entendre très rapidement. On te voit manger avec des collègues de toute origine. Toi-même, tu es originaire d'Afghanistan. Le fait d'être au Québec et de voir qu'on célèbre pendant un mois la culture noire, ça te dit quoi, toi? On t'écoute?
Ben, je crois que c'est un mois qui est consacré comme pour, ben, évidemment, l'histoire des Noirs, parce que souvent, on va mettre comme leur réalité de côté, malgré qu'il y a beaucoup d'injustices et tout. Et enfin, ce mois est là pour ne pas l'ignorer et comme faire quelque chose.
OK. Excellent, excellent. Mesdames, peut-être qu'il y a un petit mot à rajouter, Iran. Le mois de l'histoire des Noirs, pour toi, ça représente quoi?
Ben, comme les autres ont dit, c'est un mois pour vraiment remémorer le passé de tout le monde, de plusieurs communautés. Mais en même temps, je trouve que c'est une très bonne idée de faire appel à ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas pour en apprendre plus. Mais je pense que ce serait très bien de prendre cette idée et de mettre dans plusieurs autres régions de toutes sortes de traditions de toutes les communautés.
Excellent, excellent. Je te vois aller là, afin qu'on vienne à connaître davantage les autres cultures. Oui. Vous avez ce cours d'éthique et de culture religieuse qui participe énormément à connaître son voisin, maintenant qu'il va devenir là, bientôt culture et citoyenneté. On aime bien ton commentaire. Ouais, ouais. Et pour terminer, gente dame Sarah, le mois de l'histoire des Noirs, pour toi, c'est quoi? On t'écoute.
Ben, pour moi, c'est vraiment se rendre compte que l'histoire des Noirs, ça n'a pas commencé quand ils sont arrivés en Amérique. Et en plus, les Noirs sont arrivés, il y a des Noirs qui sont arrivés en Amérique avant même l'esclavage. Et c'est malade mental, tous les empires et les royaumes de l'Afrique, genre, quand je lis même une phrase qui parle de ça, je suis comme, oh my god. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend pas ça à l'école? Okay. Et tout. Et aussi, pour moi, je suis musulmane. Okay. Et c'est vraiment intéressant de découvrir des personnalités musulmanes noires qui ont eu vraiment de grands impacts dans la communauté.
Superbe. Bah, entre autres, un des grands noirs de la religion musulmane, Bilal, entre autres.
Oui,
ouais,
oui,
bah Bilal. Ouais, entre autres. Donc, quand même très intéressant. Merci pour ton apport historique également, Madame Sarah. Maintenant, mesdames, très rapidement, vous êtes dans une école de filles, à majorité de filles, il y a quand même des garçons dans certaines cohortes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans les universités, les cégeps, comme vous êtes en train d'appliquer, on retrouve de plus en plus de filles dans les programmes, puis de plus en plus de filles à l'université. Vous, ça vous fait quoi de voir qu'aujourd'hui, la femme noire, elle prend sa place dans la société et par ricochet, de voir que les femmes prennent davantage, de plus en plus de place, c'est elles qui viennent à occuper certains grands postes de direction. Moi, j'aimerais vous entendre très rapidement lorsqu'on voit que la présidente du conseil de ville de Montréal, c'est une femme noire. La dernière chef de l'opposition officielle au Québec, Mme Dominique Anglade, femme noire, de plus en plus, on en voit à la télé. Ça vous fait quoi, là? Est-ce que vous voyez que la société québécoise est en train de changer? Paul Vacha, on t'écoute.
Mamie, elle est en train de changer et on voit beaucoup d'égalité entre femmes et hommes. Et je crois que c'est un bon
marche de l'avant.
Super.
Mais ça reste qu'il reste encore beaucoup de...
Malgré qu'il y a des avancements, tu nous dis qu'il y a quand même quelques pas à faire encore et plusieurs pas.
Je crois plusieurs, oui.
Madame Dubois, vous-même, Mélanie, vous avez écrit sur le féminisme avec Chantal Bertrand, entre autres. J'aimerais avoir votre réaction, vous, très impliquée, le fait de voir aujourd'hui que la gente féminine prend vraiment sa place et de voir que les femmes noires, qui ont trimé dur, mais aujourd'hui, ils occupent certains postes vraiment importants. Est-ce que vous sentez qu'on va dans la bonne direction au Québec en ce sens?
C'est sûr qu'on va dans la bonne direction, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a vraiment un plafond de verre. Il y a encore beaucoup d'emplois. Tu sais, quand on regarde en politique, on ne dépasse pas 30 % de femmes encore en politique, dans les hauts postes. Si on regarde, par exemple, chez les avocats, il y a plus de femmes qui vont sortir du barreau. Mais quand on regarde dans les postes de pouvoir ou les postes plus prestigieux, il y a moins de femmes, par exemple, qui sont associées ou qui deviennent juges. Donc, oui, les femmes prennent leur place, mais les sphères de pouvoir, c'est encore difficile. Puis je dirais que pour les personnes racisées, que ce soit les femmes noires, les femmes musulmanes, les personnes asiatiques ou peu importe la culture, ces femmes-là vivent la double discrimination d'être à la fois femmes et à la fois racisées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Okay. Donc, okay. Ça, je pense que ça fait aussi que c'est encore plus difficile pour ces personnes-là. Puis quand on regarde la communauté noire, on regarde les statistiques, ils sont en moyenne plus scolarisés. Ils ont plus de diplômes universitaires que la moyenne de la société en général, mais ils ont plus de difficultés à se trouver des emplois. Donc, on a encore un gros travail à faire. On va dans la bonne direction, mais il ne faut pas arrêter de travailler.
OK, excellent. On voit que Palvacha avait tracé un peu la route pour la réponse qui était la vôtre. Vous êtes dans cette lecture qu'il y a des petits pas qui se font, mais le gros du travail est à faire. Je regarde Marlène qui me regarde, là. Monsieur Rosel, je veux répondre. On t'écoute, oui, vas-y.
Mais je voudrais un peu ajouter à ce que Liran a dit tantôt. Mm-hmm. Je trouve que le mois des Noirs aussi, c'est comme une façon pour qu'on puisse raconter notre histoire, comment on la voit. Mm-hmm. Et je trouve que c'est aussi beaucoup de l'acceptance. Mm-hmm. Par exemple, dans les écoles, on voit de plus en plus des programmes ou des activités pour inclure un peu tout le monde et toutes les cultures, mm-hmm. pour que les gens qui sont dans leur culture, c'est peut-être pas celle qu'on entend souvent parler, ils puissent se sentir aussi acceptés dans leur école, yes. que leur culture, ça compte aussi, que yes. les gens, ils les écoutent, okay. et que souvent, ça donne souvent plus envie aux gens de venir à l'école, de participer, okay. de sourire, et des choses comme ça.
Excellent. Chloé, avec Jenny, vous partagez le même micro, très rapidement, l'avancement de la femme... Est-ce que vous sentez qu'il y a encore pas mal de chemin à faire ou quand vous êtes dans une école comme la vôtre puis vous voyez que vous êtes pas mal toutes des têtes, vous dites « Hey, société, attache ta tuque, on s'en vient, on vous écoute rapidement à Coconut. »
Ben moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais si on regarde juste ce qui est déjà fait en ce moment, je trouve que c'est quand même beaucoup comparé à il y a même 20 ans et je pense que ça montre un bon exemple aux enfants parce que, par exemple, moi, quand je grandissais, j'avais pas tant d'exemples ou de personnes à regarder, à part mes parents ou d'autres gens dans mes alentours. Mm-hmm. Mais je pense que, par exemple, dans la politique, au moins la femme, Dominique Anglade, qui était chef de l'opposition libérale, mm-hmm. je pense que ça a montré un bon exemple aux autres femmes ou enfants, des enfants noirs, qu'elles peuvent se rendre là, même si ça prend beaucoup plus d'efforts que la norme.
Superbe. Chloé, toi qui, tu me corriges, là, d'origine... Brésil. OK. Fan de football?
Oui, tout simplement.
OK, excellent. Ben, on va arriver au Brésil. Le fait de voir qu'aujourd'hui, au 21e siècle, le Brésil, à certains égards, c'est une société où la femme, c'est elle qui contrôle. C'est une société matriarcale. Madame Dubois, vous pouvez me corriger, là. Mais on sent que quand je te dis société matriarcale, c'est la femme qui s'occupe de la famille, qui s'occupe que les enfants aient des vêtements, qui s'occupe que les enfants aillent à l'école. Tu sais, je veux dire, ce qu'on appelle, nous autres, en créole, le poteau mitant, le socle de la famille. Moi, j'aimerais t'entendre, au Brésil, est-ce que tu sens que la femme, elle a plein pouvoir ou il y a encore du changement à faire? J'aimerais t'entendre. Ah ouais, il y a une Brésilienne devant moi, d'origine en tout cas.
Ben, je serais d'accord de dire que la femme a un rôle important au Brésil, que ce soit une société matriarcale. Je dirais que ça a à voir avec le fait que c'est très catholique là-bas et tout. Et je dirais que le féminisme là-bas, il est très différent de celui qu'on voit au Canada. Je sens que j'ai surtout observé ça dans notre cours d'histoire de cette année, que le féminisme qu'on a vu en Amérique du Nord, c'est quand même un féminisme assez exclusif. Donc, les premiers mouvements, ça incluait pas vraiment les personnes de couleur. C'était du féminisme qui était réaliste seulement pour les femmes blanches. Donc, je trouve que ce qui a été réalisé par cela, c'est très différent ici. Puis ça, il n'y a pas vraiment eu ce type de mouvement-là en Amérique du Sud. Donc les progrès sont plus lents, mais aussi c'est parce que ça vient d'une origine différente.
Oh my God! Vous vulgarisez si bien, Chloé. Écoutez, ils cherchent du monde là, à l'Université de Montréal, là, des chargés de cours, puis des professeurs. Vous pouvez peut-être contacter Mme Dubois et elle peut vous arranger quelque chose à l'UQAM, là, hein, entre autres. Madame Dubois, très rapidement, votre étudiante a amené un élément assez intéressant, un féminisme exclusif. Aujourd'hui, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que vraiment dans le mouvement féministe, on a pu vraiment voir, bon, on s'occupait peut-être plus des femmes blanches à l'époque, ou est-ce qu'il y avait cette différenciation, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose?
Oui, bien, je pense pas qu'au départ, le féminisme se voyait comme un féminisme blanc, mais effectivement, parce que les femmes qui ont pu faire, dans le fond, travailler pour le droit de vote au Québec, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, c'était des femmes bourgeoises blanches. Les femmes noires ne pouvaient pas vraiment manifester, surtout pas aux États-Unis. quand t'as pas les mêmes droits, tu peux pas vraiment avoir les mêmes privilèges de manifester. Donc, effectivement, le féminisme était au départ un féminisme plus de femmes blanches bourgeoises. Et c'est là, justement, que le Black Feminism a été important dans les années 60-70 pour amener, justement, cet aspect-là en disant, votre féminisme ne nous correspond pas, on ne vit pas la même chose que vous, on ne vit pas les mêmes discriminations que vous. Puis effectivement, ça a apporté une richesse au mouvement féministe parce que le féminisme, c'est pas une seule voix, c'est de multiples voix, puis il y a beaucoup de féministes. Puis on peut pas dire « Ah, les féministes pensent ça ». Non, il y a vraiment beaucoup de versions, si on peut dire, du féminisme ou de courants féministes qui peuvent dire « tout et son contraire ». C'est toujours dans l'idée de l'égalité homme-femme, mais la réalité des femmes peut être différente. Et ça, je pense que c'est important. Puis matriarcat, j'aimerais dire. Matriarcat, ça n'existe pas parce qu'il faudrait que les femmes soient au pouvoir. Donc oui, il peut y avoir un pouvoir de femme dans la famille, mais un matriarcat, comme il y a un patriarcat, ça n'existe pas encore.
OK. Vous savez, moi, ça reste ma prof là, à l'université, Mme Dubois. Là. Donc vous comprenez, j'aime bien cette mise. On remet les choses en perspective. On a nos deux étudiantes avec nous, élèves. Là. Madame Iran, toi qui es d'origine chinoise, tu me corriges. Tu dis qu'il faudrait qu'il y ait un mois de l'histoire des Noirs, il y en a un, mais ce serait bien qu'on fête également, qu'on fasse connaître d'autres cultures. Je sais qu'il y a beaucoup de discrimination. On en parlait en France durant la pandémie, un petit peu en Amérique, là, à l'encontre de nos frères et sœurs d'origine asiatique. Toi, qu'est-ce que peut faire la femme chinoise, entre autres, qui habite à Montréal, née à Montréal, genre, afin d'aider à ce qu'on connaisse davantage sa culture et sa communauté? On t'écoute très rapidement.
Bien, en premier, je pense qu'il faut juste que tout le monde soit plus ouvert en premier, d'accepter de nouvelles idées et des nouvelles histoires. Mais en même temps, il faut être plus courageuse pour chaque personne, de vraiment dire ce qu'elle pense, de ne pas se laisser faire non plus, pas, face à la société peut-être qu'il discrimine. Exactement. Mais alors, je pense que c'est des deux côtés qu'il faut agir. Il ne faut pas seulement que les personnes qui veulent faire entendre leur voix essaient très fort et que l'autre, les personnes qui écoutent sont vraiment fermées et ne peuvent rien savoir. C'est vraiment des deux côtés qu'il faut que ça marche et qu'on essaye.
Superbe. Avant de terminer, pas trop long, OK? On est dans un podcast actuellement. la représentativité des femmes de couleur, entre autres femmes noires, on est dans le mois de l'histoire des Noirs, mais on peut mettre un trois petits points femmes de couleur, dans les médias au Québec. J'aimerais vous entendre là-dessus. Lorsque peut-être vous, votre génération, vous regardez plus trop la télévision en tant que telle, mais lorsque vous regardez le contenu sur Internet, YouTube, contenu à Télé-Québec, Radio-Canada, est-ce que vous vous sentez interpellé par la représentation que vous voyez à la télé ou sur le petit écran? J'aimerais commencer avec Sarah, par la suite Jenny, Chloé et Marlène, entre autres. Oui, je t'écoute.
Moi, je ne regarde pas vraiment de télé. Ouais, j'ai pas grandi avec de télé chez nous. Mais comme, personnellement, les femmes de couleur, quand je vois, moi, un jeu que j'aime jouer quand je suis dans le métro ou dans le bus, je regarde les publicités dehors et je spot toutes les personnes racisées dans les
publicités. Ouais, je pense qu'on a un réflexe.
J'adore faire ça. Mm-hmm. Et mais c'est vraiment comme... Où c'est comme, on va dire, une publicité avec 5 personnes blanches, une personne noire, une personne asiatique.
Okay.
Vous comprenez? Okay, ouais. Et je suis comme, OK. Genre, je vois souvent ça. Mm-hmm. Et je suis comme, OK. Mais quand ça vient à la représentation, ça dépend où, sur les réseaux sociaux, quand même. Genre, c'est bon, mais comme sur la presse, la presse, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais il y a comme, c'est majoritairement des blancs, bien sûr, mais ça progresse quand même.
Ça progresse, OK. Donc, il y a quand même cet élément d'espoir que tu laisses poindre. Intéressant. Marlène, très rapidement, c'est que Marlène, là, je pense qu'on va on va l'entendre les matins en remplacement de Masbourian. C'est elle qui va animer l'émission du matin à Radio-Canada, ici première. Je te dis, tu as une voix radiophonique incroyable.
Moi, je trouve que dans ma perspective, c'est plus comme, j'aimerais ça que ça soit plus pour la personne. Genre, le fait qu'elle soit noire, mais je veux pas que ça soit juste ça, parce que souvent, il y a des compagnies qui font juste mettre la personne parce qu'elle est noire, mais pas pour ses capacités. Ils la mettent parce que juste elle est noire, donc on veut de la diversité, on veut apporter un certain type de public.
Alors, tu veux la personne la plus compétente, et si elle est issue de la diversité, tant mieux, mais qu'on l'attire, qu'on la prenne, on la choisisse pour ses compétences,
ouais, pour ce qu'elle est capable de faire aussi, parce que souvent, quand les gens ils regardent la publicité, des fois les enfants ils comprennent que des fois il y a des compagnies qui le font, qui ne se cachent pas, ils le font juste comme ça, ils disent qu'on accepte la diversité et ensuite ils montrent directement la femme noire. Et c'est comme les enfants, ils commencent à comprendre que c'est juste parce qu'elle est noire. Et j'ai entendu plusieurs enfants dire ça, et ils comprennent des fois, ça les perd un peu dans le fil de l'avancement, puis ils ne comprennent plus c'est de la diversité, ses capacités. Donc j'aimerais bien que les compagnies fassent plus l'effort de montrer aussi qu'elle est capable d'autre chose que juste d'être noire.
Wow! Franchement, Chloé et par la suite Jenny, très rapidement, est-ce que toi, Chloé, lorsque tu regardes les nouvelles, est-ce que tu sens que la Brésilienne un peu plus basanée se sent représentée, par exemple, à la télé, entre autres, au Québec? Je sais que votre génération, vous ne regardez pas trop la télé, là, mais la question sur les internets, si tu me permets l'expression. Jenny? Ouais, vas-y, Chloé. Ouais, Jenny, ouais.
OK, ben moi, j'avais quelque chose à dire par rapport aux femmes noires sur les médias. Mm-hmm. Je trouve que la représentation, elle augmente de plus en plus, mais il y a aussi un truc avec le colorisme.
Yes.
J'ai l'impression qu'ils utilisent souvent des femmes noires métissées, donc noires et blanches, avec un teint de peau qui arrive plus vers les personnes blanches, au lieu d'utiliser des personnes avec une peau foncée.
Ouais, ça, ben... Je pense que le constat est fait par l'entièreté de la communauté noire. Là.
Ouais.
À un moment donné, on se dit, ils choisissent quel Exactement. Type de noir ils veulent avoir, parce qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle light skin, peau claire.
Et même si on regarde le média américain, on retrouve souvent des personnes clés comme Zendaya, qui est utilisée dans la plupart des films, et c'est leur sorte de représentation dans le film. Mais moi, je trouve que c'est pas assez, qu'il devrait avoir plus de personnes. Par exemple, la seule personne de peau vraiment foncée qu'on retrouve, c'est genre Viola Davis. Il y a eu un EGOT récemment, mais je trouve qu'il faudrait avoir un peu plus de diversité par rapport à la couleur de peau.
Pouf! C'est incroyable! Et ce que tu dis, c'est si vrai qu'il y a un travail à faire, et je te dirais même dans les médias noirs. il y a ce biais inconscient également. Moi, j'ai eu à travailler avec un directeur de télé, propriétaire d'une chaîne de télé owned by black people. Et lorsqu'il fait son choix, j'ai dit, hey man, ton affiche, elle est complètement blanche. Ah, mais non, il y a une noire là, j'ai dit, franchement, faut faire Photoshop pour. T'sais. Donc, même nous, en tant que noirs, des fois, il y a ce biais inconscient. Ouais, donc, j'adore ton point. Oui,
j'aime. Mais moi, je trouve aussi que, si je, pour ajouter à votre point, souvent, c'est pour faire vendre. Il y a, des gens qui veulent, on dirait qu'ils ne veulent pas juste faire quelque chose pour l'action soi-même parce qu'ils veulent vraiment que les gens ils commencent à regarder. Et ils disent, ah, oh, mais si, si je mets ça, les gens vont peut-être plus regarder, vont comprendre que je suis ici, ça. Mais il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qu'on voit vraiment le faire juste pour l'action, juste pour le faire, même si ça peut les apporter peut-être des petits commentaires par-ci, par-là. Ce courage-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont.
Vous expliquez ça comment, mesdames, Palvacha, t'expliques ça comment, le fait que les grands dirigeants de ces grands médias n'osent pas prendre cette chance avec les gens de la diversité ou les gens de couleur, on t'écoute.
Je crois que parfois, c'est aussi parce qu'ils ne font pas vraiment attention. C'est comme ils sont tellement habitués que, que comme, ils ne réalisent juste pas. Mais juste, dès que quelqu'un fait comme le commentaire, c'est comme « Ah oui ». Mais en même temps, je crois que parfois, les grands entrepreneurs ou le, quelque chose, parfois, ils vont… Qu'est-ce que j'allais dire?
Donc, les grands patrons, par moment, ils vont juste…
c'est ça. Ben, parfois, ils vont comme… Je crois que quelqu'un l'a mentionné avant, mais c'était comme de vendre.
Il y a l'aspect pécunier.
Parfois, c'est ciblé à, comme à des personnes…
Bien sûr. OK. Intéressant, intéressant. J'aimerais t'entendre, Iran. Toi, quand tu regardes la télévision au Québec, est-ce que tu sens qu'elle est représentative de ton Montréal à toi, de ton Québec tel que tu le perçois? Tu vois des femmes noires, tu vois des femmes asiatiques à la télé québécoise, on t'écoute. Je vois Marlène qui rit.
Mais moi, sur les médias, je pense pas que c'est vraiment représentatif. Parce que sur la pondération des communautés et de ce qu'on voit, ben, on peut dire que la majorité, comme 90-80%, c'est blanc, mais alors que dans la communauté, c'est pas la réalité. Donc, sur cet aspect, je pense pas que c'est représentatif. De plus, la plupart, même si c'est une petite diversité, c'est vraiment fait intentionnellement. C'est pas parce qu'on est une communauté diversité qu'ils vont faire un choix. C'est pour qu'on ait l'air d'être diversifié, qu'ils vont faire des choix. Donc ça, je pense, c'est pas un pensée, mais c'est plutôt une action qu'il faut qu'on change un peu genre de la façon de faire. C'est ça, parce que quand on fait intentionnellement, c'est pas vraiment la diversité. C'est quand est-ce que c'est vraiment diversifié et que c'est dans la société que là, c'est diversifié.
Wow! Oh! Messieurs, dames, nous sommes au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, oui, sur Côte-Sainte-Catherine, vraiment des élèves hors pair. Je voyais Sarah qui avait un petit truc à dire, très rapidement, oui.
Moi, vraiment, c'est pour les gens de notre âge, vraiment pour... Avant qu'on fasse tout ça, c'est vraiment, on doit regarder nous-mêmes. Il faut qu'on apprend sur notre propre histoire. Par exemple, c'est le mois d'histoire des Noirs. Tu dois connaître ton histoire pour affirmer ton identité. Comme moi, je peux pas dire ouais, je suis musulmane, mais je connais rien sur mon histoire. Et genre quand j'ai commencé à lire sur l'histoire islamique, j'adore. Et même l'histoire arabe, moi je suis arabe tunisienne.
Ok. Tunis.
Et quand tu connais tout ça, ça te permet de vraiment. C'est plus facile, je trouve, de te mettre en avant dans des champs qui te rendent peut-être plus mal à l'aise.
Est-ce vrai, Chloé? Le fait de connaître son histoire, ça fait en sorte qu'on avance davantage et surtout avec confiance.
Je pense que oui, je pense que ça apporte une plus grande appréciation pour ses racines et sa culture. Et ça fait en sorte qu'on peut aussi apprécier celle des autres encore plus.
Superbe, alors c'est le dernier tour de table. Jenny, toi, très rapidement, Est-ce que tu vois le développement de notre société québécoise en ce qui a trait aux problématiques noires vraiment aller pour le mieux, ou tu as vraiment une lecture très pessimiste de la chose? On t'écoute.
Je dirais pas qu'elle est pessimiste, mais je dirais pas qu'elle est optimiste. Je dirais que, par exemple, si on regarde ce que M. Legault avait dit, que le racisme systémique n'existe pas au Québec.
OK, les filles, vous suivez la politique à ce niveau. On peut citer le premier ministre du Québec. Alors là, franchement, Coconut Podcast Junior, messieurs, dames, au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, je vous dis.
Je trouve que même ce petit commentaire aurait même fait regresser tout le progrès qui s'était déjà passé, parce que... Mais ça confirme un peu les gens qui sont contre le progrès de ce qu'ils pensent qui ne se passe pas, ne se passe pas réellement, même si ça se passe. Et je pense qu'honnêtement, il faudrait plus que ça avance, parce que pour le moment, c'est moyen.
On dit que la vérité vient de la bouche des enfants. On ne sait pas si vous êtes enfant encore, mais adolescente quand même. Oh là là, je voyais votre collègue des médias, un peu Marlène, là. Ah ouais, continue. Madame Dubois, on aimerait vous entendre. Est-ce que vous voyez le développement, l'avancement de la chose d'un œil plus pessimiste, ou vous êtes assez optimiste? La place de la femme dans la société québécoise, la femme noire, est-ce que vous sentez que ça va en s'améliorant?
Bien, comme je l'ai dit tantôt, il y a des pas qui sont faits, mais effectivement, il y en a encore beaucoup à faire. Puis quand le chef de ton État ne reconnaît pas le racisme systémique, je veux dire, comment la population peut le reconnaître elle-même, puis comment on peut mettre des actions concrètes pour que ça cesse? Je veux dire, quand on voit l'histoire de Joyce et Chacoan, ça fait froid dans le dos. Oui, il y a des actions qui ont été posées. Oui, je pense qu'il y a, de l'information, il y a de la... l'éducation qui se fait, par exemple, au niveau des Premières Nations, mais je veux dire, quand on regarde aussi le premier ministre, il y a la Cour suprême qui a interdit le profilage racial avec, tu sais, on ne peut plus arrêter quelqu'un en automobile juste pour faire des vérifications. Ben le Québec conteste la décision, je veux dire, et on sait que c'est la première source du profilage racial. Donc, pour moi, ça, c'est un problème. Je veux dire, on a créé un ministère contre le racisme, mais c'est une personne blanche qui est à la tête. Je peux comprendre.
Bon, là, il y a M. Christopher Skeet, quand même, oui. Originaire des Antilles. Mais oui, bon, oui. Voilà.
Mais il y a encore du chemin à faire, je veux dire. Oui, on va de l'avant, mais j'aimerais... peut-être que moi, j'aimerais que ça aille plus vite.
Okay. Très rapidement, Palvacha, est-ce que la vitesse dont... à laquelle tu vois que les choses changent, est-ce qu'elle te convient, ou t'aimerais que ça aille un petit peu plus vite quand même?
Pas du tout, c'est vraiment lent. Genre, ça a pris autant d'années, des dizaines et centaines d'années pour quand il y a enfin quelque chose qui arrive. Mais malgré ça, c'est comme vraiment lent. Okay. Et puis, ben en même temps, je crois que c'est aussi un peu le problème des médias, parce que je trouve que eux, ils essayent de comme restreindre l'information. Et puis là, c'est comme pour tout le monde, ils regardent, ils prennent leur information de ça. Et puis, je trouve que ça crée comme...
Écoutez, un dernier tour de table. Votre souhait pour les 10 prochaines années pour le Québec. À quel endroit voyez-vous votre société idéale dans 10 ans? Elle serait comment? Vous avez 15 secondes, mesdames, pour répondre. On sait que vous avez cette capacité de... voilà, résumer, rendre les trucs vraiment straight to the point, si on se permet l'anglicisme. Alors, dans 10 ans, quel serait votre souhait pour le Québec et surtout, voilà, pour Montréal? Alors, on vous écoute.
Mais moi, je pense qu'il faut... j'aimerais qu'il y ait plus de racistes, mais je pense que ce serait impossible en même temps, mais c'est un souhait, comme vous avez dit. Et à part ça, c'est vraiment de traiter tout le monde également. Pas parce que t'es quoi ou comment.
Excellent, excellent. Alors, on dit au revoir à Jean Tedam. Elle se doit de nous quitter. Chloé, elle a un cours qui commence à l'instant même. Donc, on remercie Chloé d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci. Très rapidement, on termine là-dessus. Sarah, ton souhait en 15 secondes.
pour moi, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est comme, l'ouverture d'esprit, c'est pas, OK, il y a ta culture devant moi, je le vois, c'est bon. C'est pas juste ça, c'est aussi te mettre à la place de l'autre personne, le voir de leur vision, c'est comme, c'est vraiment ça ce que je voudrais.
Superbe, j'adore ton souhait, vraiment, vraiment. On sent que ça vient du cœur et c'est honnête. Marlène, ton souhait pour les 10 prochaines années, pour ton Québec, on t'écoute.
Moi, c'est un peu assez similaire à Sarah. Je trouve que l'ouverture, c'est une des choses les plus importantes. Parce que le monde change, la culture, des fois, elle change, mais elle ne va pas changer, elle ne va pas bien s'intégrer dans la société si on n'est pas ouvert. Parce que quand on s'ouvre, on apprend des nouvelles choses, on apprend une nouvelle façon de fonctionner, on apprend les gens qui nous entourent, et c'est avec ça qu'on fonde notre société. Et la société va rester avec les pensées du passé si on ne s'ouvre pas à ce qui va venir dans le futur. Alors moi, je trouve que c'est ça qu'il faudrait au Québec et dans plusieurs pays dans le monde.
Vous êtes incroyable, Madame Marlène. Franchement, je vous dis honnêtement, je suis estomaqué. Alors, vraiment. on voit son amie Jenny qui dit hey, « tu l'as la femme !» Jenny, toi, ton souhait pour les 10 prochaines années, on t'écoute.
J'espère qu'il y aura un développement de l'acceptance et l'intégration, et non seulement la tolérance des autres cultures, mais le fait de les intégrer dans la société, de les mettre dedans pour faire que les gens fassent complètement partie et non tolérer qu'ils soient là.
Moi, je crois pas. Est-ce que c'est Madame Dubois qui vous a inculqué tout ça en si peu de temps? Vous êtes si... Vous vous exprimez, c'est grave, les filles. Je vous jure. Hein. Allez, par la suite, faites des conférences. Hein. Allez, c'est déjà le podcast, je pense qu'il va voyager énormément. Mais par la suite, il y a quelque chose que vous pouvez monter avec vos enseignantes, l'école, où vous pouvez aller parler à d'autres jeunes du primaire, ne serait-ce que pour les motiver. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très, très intéressant à travailler là-dessus. Vous allez être une grande conférencière, genre de dame. Ouais, Jenny, franchement, wow. Madame Dubois, très rapidement, en 15 secondes.
15 secondes, ouais. C'est pas long. J'aimerais ça, au Québec, qu'on arrête de dire « eux » et « nous ». J'aimerais ça être un « nous » inclusif. Et qu'on arrête de voir l'immigration ou les gens racisés comme... des gens qui viennent profiter du Québec. En fait, ils contribuent au Québec autant que les autres. Puis je pense qu'on oublie ça. Puis ça serait bien aussi, je pense qu'on apprenne ça aussi en histoire, comment les diverses communautés ont contribué à la construction du Québec et du Canada.
Comme on dit chez moi, c'est fumant comme réponse. Et pour terminer, Palvacha, c'est toujours toi qui résume hein, pour nous très rapidement ton souhait pour les 10 prochaines années pour ton Québec. Mm-hmm. On t'écoute.
Pour la prochaine décennie, j'espère qu'il y aura au moins une certaine progression au niveau de l'égalité et que les personnes vont arrêter de tolérer les comme, mauvaises actions comme le racisme et puis plusieurs autres. Et je voudrais aussi souhaiter une plus grande ouverture d'esprit.
Ouais, c'est vrai, parce que le racisme, l'antisémitisme, toutes les discriminations à l'égard des communautés LGBTQ+, comme mes amis disaient au Sénégal à une époque, il y en a marre. D'accord? Donc, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Alors, messieurs, dames, écoutez, on vient de réaliser tout un podcast. Je pense qu'il faudrait réitérer l'exercice sur d'autres sujets. Moi, je serai avec vous pour les prochaines semaines. Alors, pensez à des projets. Je pense qu'on peut venir ici sur l'heure du dîner avec l'aval de la direction, des enseignants titulaires. Et franchement, je pense que vous allez partir une radio à partir du pensionnat de Saint-Nom-Marie, hein, le 107.5, sur la banque FM. Hein, parlez-en à votre directeur, là. Voilà, Monsieur Petit, c'est ça?
Oui, ouais, exactement.
Ouais, parlez-en à Monsieur Petit, peut-être il trouvera le financement. Voilà, voilà. Alors, messieurs, dames, Coconut Podcast, on a eu cette chance de se promener à travers la nation québécoise et on a été à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Et sur la côte nord, à cette île, ils nous disent, en langue inou, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Est-ce que vous voulez tous essayer?
Chinash Kumitin.
Wow! On dit que vous apprenez trois langues minimum ici. Je pense que... vous allez en parler plusieurs, toutes polyglottes, là. Par la suite, on a été voir nos frères et sœurs Huron-Wendat. Ça, c'est dans la région de Québec. Alors, en langue Wendat, ils nous disent Téawek. Alors, tout le monde a l'unisson?
Téawek.
Monsieur Petit, il y a de quoi être fier de vos élèves. Par la suite, on a été dans le centre du Québec, à Odanak, en langue Abénaki. Ils nous disent, nos frères et sœurs, Oléone. Alors?
Oléone.
My God, je capote. Et là, Coconut Podcast, on a fait 8000 kilomètres au Québec, on s'est promené, on était même jusqu'au Nouveau-Brunswick, et là on est monté en Abitibi, oui, et là en langue algonquine, nos frères et sœurs des Premières Nations nous disent Miigwech.
Miigwech.
Bon, et pour terminer, écoutez, nous sommes dans la région de Montréal, nous avons nos frères et sœurs des Premières Nations, entre autres Mohawk, et eux, ils nous disent Niawen.
Niawen.
Eh bien, messieurs, dames, franchement, toute une entrevue. Messieurs, dames, oui, nous étions au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie. Nous venons de rencontrer les futures dirigeantes de notre Québec, de notre Canada, de différents horizons, et le tout chapeauté par la grande enseignante, Madame Mélanie Dubois, également autrice, chargée de cours, écoutée, impliquée dans l'association des enseignants-enseignantes d'éthique et de culture religieuse. On vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous cherchez une école pour votre fille ou pour votre garçon également, en musique, études, danse, études, entre autres, flex, eh bien, le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, je peux vous dire, une institution à ne pas louper. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit, Niawen, merci, au revoir, on se revoit pour une autre entrevue sur les ondes de Coconut Podcast Junior. Merci, au revoir.